Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blas au micro, la dernière de la semaine parce que demain c'est la journée de la réconciliation. On ne sera pas là, on va être en vacances aussi pour être avec les autochtones du pays, être du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ouais, c'est pas le Canadien, c'est pas seulement au Québec, ça se passe dans tout le Canada. Donc demain il n'y a pas d'escale 16-17. Ou pour nous, pour ceux qui veulent se rattraper, qui ont manqué les anciennes émissions, peuvent se rattraper sur le site web ou bien sûr Apple Podcast, Google Podcast, sur Spotify, sur toutes les plateformes numériques. Mais je vous le dis, c'est pas seulement mon émission qui passe sur toutes les plateformes numériques, c'est toutes les émissions de Canal M qui se retrouvent là-bas sur toutes les plateformes numériques. C'est une précision que je voulais faire. Alors, Myriam Larache est déjà au bout du fil, elle m'entend, mais je ne lui dis pas encore bonjour. Et alors, on va la recevoir. Elle va nous parler de quoi aujourd'hui? Myriam a tellement de sujets là. Un petit retour sur la Lever Cup à Londres. Et puis, il y a la Coupe du Monde de basketball féminin, soccer, match préparatoire du Canada au Mondial 2022. J'ai raté quelque chose. Dévoilement de la vedette du spectacle du Super Bowl 2023. Et puis, à 16h15, je vais recevoir Valérie Lessard, qui est collaboratrice danse-danse, archiviste, recherchiste, interprète, enseignante, qui va nous parler du Sacre du Printemps de Pina Bausch, interprété par l'École des Sables de Germaine à Cogny. Et puis, à 16h30, Christine Tasson, porte-parole du Festival Django de Montréal. Quand on dit Django, vous pensez à quoi? C'est bien sûr Django Reinhardt. Premier festival de Django de Montréal. Elle est mieux placée pour parler de ça. Elle est porte-parole de ce premier festival. Et tout de suite, je laisse le micro à Myriam Larache. Bonjour Myriam.
Bon après-midi Fulgence, ça va bien?
Ça va bien, merci.
Bon après-midi à tous nos auditeurs. Et non, pas tout le monde qui est demain en congé. Mon fils à l'école, il va à l'école demain.
Les écoles ne sont pas fermées?
Ah oui, ça c'est la décision du Québec ça.
Ah bon?
Alors, oui, okay. il va à l'école demain. Mon conjoint, lui aussi, est congé, mais écoute, à l'école, ils vont à l'école, voilà.
Ok, ils ne sont pas inclus alors dans la réconciliation.
C'est dommage, parce que la journée de l'année dernière, il avait souligné dans leur école, en faisant beaucoup d'activités, c'était très intéressant, mais bon. Alors, écoute, ça, c'est le ministre Auberge qui décide ça.
C'est pas grave, il n'aura pas de coup à rattraper après.
Voilà. Alors, effectivement, tu as oublié quelque chose dans ton plan, mais tu vas le savoir au cours de ma chronique. Alors, on va commencer avec le tennis.
Ah, tu veux parler du championnat du monde d'Avignon?
Voilà, tu as oublié ça. Mais on va...
Allez, je te laisse partir, Myriam.
Oui, on va parler rapidement. Donc, on va revenir sur cette Coupe Laver dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Oui. Alors, la Coupe Laver, bien sûr, l'équipe monde a été sacrée championne pour la première fois de l'histoire de cette compétition créée, rappelons-le, en 2017. Il était temps avec Roger Federer. L'Europe avait remporté les 4 dernières éditions. Soulignant quand même, moi pourquoi j'y reviens surtout, les 2 victoires de Félix Auger-Aliassime, dont l'une de ses plus importantes en carrière, dit-il, contre Novak Djokovic. Elles ont d'ailleurs contribué significativement au triomphe de l'équipe monde à la Coupe Laver de Londres, notamment le dimanche. Il leur a amené 6 points d'un coup. Écoute, ça les a remis sur les rails.
Mmh.
Voilà. Et s'il n'y a pas de titre pour l'excellence de cette compétition, mais moi j'en aurais donné un. Mais s'il fallait donc nommer un joueur étoile, notre Québécois Félix Auger-Aliassime en serait probablement le récipiendaire de toute équipe confondue. Il a été le plus efficace, le plus brillant, faut le dire, il soulignait haut et fort.
Oui, alors, mais les médias n'ont pas trop parlé de ça ici.
Oui, ils n'ont pas trop parlé, ils ont surtout parlé, c'est drôle, de Tiafoe qui a amené la victoire, de Tiafoe qui a fait beaucoup de cinéma, qui a mal parlé du grec en le traitant de yaourt, que... Alors, tu sais qu'il a fait ça, il passait devant lui puis il le traitait de yaourt, à ce qui paraît. Bon, écoute, on va pas rentrer dans
Tiafoe, c'est un numéro quand même.
Ouais.
C'est un numéro.
J'aime pas trop entendre ce genre de choses.
Ouais, j'aime pas ça.
Sachez que l'an prochain, c'est chez nous que ça va se passer, à Vancouver en 2023. Alors, ceux qui veulent aller faire un petit tour en octobre, fin septembre, octobre à Vancouver... Prenez vos billets dès maintenant, ça sera au domicile des Canucks, le Rogers Arena. Par ailleurs, la compétition retournera sur le vieux continent l'année suivante, sachez-le déjà, à Berlin, pour 2024. Ça sera chez toi, ça sera chez toi. Alors, chez toi l'an prochain. Chez toi ici l'an prochain et chez toi l'année suivante.
Ah oui, voilà, je suis gâté là.
Alors, pour conclure sur cet événement ce week-end, donc riche en émotions, interviewé par le journaliste Christopher Clary, que tu as reçu, hein, du New York Times,
oui.
Roger Federer s'est confié et il a dit, c'est sorti hier, entre autres avec son habituel sens de l'humour, pour conclure cette belle chronique sur ça, « Je pense que je me sens complet, dit-il, j'ai perdu mon dernier match en simple, c'était avec Urkash,
oui.
J'ai perdu mon dernier match en double, j'ai perdu ma voix à force de crier et de soutenir l'équipe ce week-end,
oui.
J'ai perdu la dernière fois en tant qu'équipe, j'ai perdu mon travail, mais je suis très heureux, je vais bien, vraiment, je suis vraiment bien.
Okay. »
Alors voilà, on finit sur
Quelle poésie.
Voilà, oui, on finit sur cette belle phrase de Federer.
Oui, oui.
Maintenant, on passe à la Coupe du monde de basketball féminin qui se passe en Australie, figurez-vous. Quelle semaine pour notre équipe canadienne. Quelle semaine.
Au pays du kangourou.
Au pays du kangourou. Et d'ailleurs, pendant que je m'en venais pour faire cette chronique,
oui.
la dernière heure est tombée. L'équipe canadienne a atteint les demi-finales ce matin.
Bravo.
À cette Coupe du monde de basketball 2022 à Sydney.
Bravo.
Après avoir défait... Oui, bravo.
Bravo à nos filles. Bravo aux filles.
À nos filles.
Oui, oui.
Qui ont défait Porto Rico 79-60. Écoute bien, c'est la première fois en 36 ans que le Canada en basketball féminin se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. En 1986, le Canada avait décroché la troisième place. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Au soccer aussi, ça fait 36 ans qu'on n'est pas parti à la Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai. Ils aiment ce fameux chiffre, 36.
Ils aiment ce chiffre. Le Canada, qu'est-ce qu'il a en 2022? Tout va bien. Alors, la victoire en quart de finale contre le Mali avait assuré le Canada d'une place cruciale donc au deuxième rang du groupe B, ce qui lui a évité, bien sûr, de jouer devine contre qui? Contre les États-Unis, qui sont très, très fortes, les filles des États-Unis, et la Chine encore plus lors des quarts de finale. Donc, tant mieux. Dans ce groupe, les Canadiennes ont subi une seule défaite, sachez-le, c'est contre l'Australie, tiens. Et
ah
elles
bon
ont par contre gagné la Serbie, la France, le Japon et donc le Mali. Les demi-finales, c'est demain. Ne ratez pas ça si vous pouvez le voir quelque part. Et les finales, c'est samedi. Rappelons que l'équipe canadienne a remporté deux médailles de bronze dans son histoire,
oui,
de basketball. Donc, c'était en 1979 et donc en 1986. Alors, on a hâte qu'elles fassent des prouesses. Maintenant, on va passer à l'aviron. Championnat du monde d'aviron aussi en République tchèque. Et qui encore a fait bien? Mais c'est le 8 féminin canadien.
Oh, mais c'est pas vrai.
Oh oui, il a remporté le bronze au championnat du monde d'aviron.
Je les adore. En commençant par l'équipe de soccer. Hein. Je les adore.
Oh,
non, elles sont géniales, il faut le dire. Voilà.
Ah, il faut le dire, en sport, elles nous honorent. Hein, il faut le dire, les femmes honorent.
Elles sont géniales.
Partout. Attends, ouais. Oui. Alors, le 8 féminin donc, a remporté le bronze au championnat du monde d'aviron en République tchèque. Il y a deux Québécoises dans cette équipe, Gabrielle Smith et Kasia Grouchala-Wizerski. Elles ont accompagné donc Jessica Sevic, Morgan Rose, Kristen Edwards, Alexis Kronk, Avalon Wesley, Sydney Payne et Kristen Kitt. Je tiens à nommer leurs noms. Elles ont quand même travaillé toutes les 8 sur ce 8.
Oui.
Pour finir à 6 secondes des médaillés d'or seulement, les Roumaines, les Néerlandaises, ont pris la médaille d'argent. Alors, ils ont quand même gagné, il faut le rappeler, la médaille d'or olympique, hein, les Canadiennes, l'été dernier,
oui,
à Tokyo.
Mais partout où elles passent, elles laissent des traces, hein?
Elles laissent des traces.
Ah ouais.
Malheureusement, chez les hommes, on est arrivé cinquième, à seulement 6 secondes 30 quand même, seulement, des champions britanniques. Voilà, c'est fait pour l'aviron.
Oui.
Maintenant, on passe au soccer. Le mondial approche, Fulgence. Le mondial approche. Alors... C'est les matchs préparatoires. Je ne sais pas si tu l'as vu un peu, mais il y a plusieurs pays.
Oui, ça se joue. Mais il y a pas mal de pays qui sont déçus par des pertes, d'autres qui sont contentes.
Oh,
il y a des victoires. Et la France qui s'incline.
Alors,
face
nous,
au Danemark.
Exact.
Ouais.
Alors, pour nous, qu'est-ce qui se passe pour le Canada? C'est comme ci, comme ça. Alors, d'abord, l'équipe canadienne a renforcé sa confiance au premier rendez-vous contre le Qatar. Bon.
Ouais, contre le Qatar, ok.
Contre le Qatar, le pays hôte, ils l'ont emporté 2-0. Même les joueurs admettent que l'équipe n'était pas au niveau.
Contre le Qatar, on devait lui donner un panier de buts.
Exact, alors ils ont dominé complètement l'équipe et ils l'ont emporté 2-0. Alors, on a montré notre qualité, a souligné leur coach John Herdman. Après la rencontre, c'est important pour nous. Par contre, le match suivant, c'était une autre affaire.
C'était contre
le
qui,
match,
hein? Je l'ai raté.
L'Uruguay. Oh. Attention.
Oh, détentrice. Oui, c'était une ancienne détentrice de Coupe du Monde, là, l'Uruguay.
Et voilà, a donné un autre scénario. Le Canada, cette fois, a perdu 2-0. C'était mardi, à Bratislava, en Slovaquie. Premier but dès la 6e minute. Bang. Puis, à la 34e, la jeune étoile de Liverpool, Darwin Núñez, hein, on entend parler de lui, a redirigé de la tête la passe au vétéran, bien sûr, Luis Suarez, je n'aime pas trop celui-là, c'en était 2-0.
C'est bien de le préciser.
C'est une chronique un peu éditorialiste, on va dire, quand ça concerne le soccer. les joueurs ont reconnu que c'était une rencontre d'un autre niveau, tiens, et que c'était une très bonne équipe. Positif, ils disent qu'ils seront encore plus prêts après ça pour le mondial. Je l'espère.
Myriam, pour compléter, l'Uruguay participe à la Coupe du Monde depuis des décennies. Ils n'ont presque jamais raté. Ils sont toujours là et l'Uruguay a été déjà championne du monde, si je ne me trompe pas. Et donc face au Canada.
Ils ont des prodiges dans leur équipe.
Donc l'Uruguay face au Canada, je me dis, on ne sait jamais.
Ça leur fait un test, hein, ça les entraîne à rencontrer une équipe forte, qu'est-ce que ça donne? Donc ils vont aller se rajuster là.
Voilà, tu t'imagines un peu le Canada face à la France ou bien l'Angleterre ou bien face au
Brésil. Attends, ils vont d'abord confronter la Belgique, puis
ou bien face au Brésil. Bon, mais j'aimerais bien qu'ils arrivent à marquer. Et là-bas, c'est les buts qui comptent, faut pas bien jouer, ne rien marquer.
Exact.
Il faut marquer les buts, même si tu as un match qui n'est pas vraiment à la hauteur, mais que tu arrives à marquer ton but, c'est ça qui compte. Voilà.
C'est ça qui compte.
Oui.
Alors, l'entraîneur, il a dit, c'est la partie la plus difficile. Il a dit, parce que vous savez que tous ces matchs font office d'audition pour l'entraîneur. Hein. Il voit ses joueurs, comment ils jouent, à quelle place, qu'est-ce qui se passe.
Qui va aligner, qui va pas aligner.
Qui va aligner. Oh. Alors d'ailleurs, Jean Lehmann a avoué que c'est des décisions très difficiles en ce moment à prendre d'ici novembre.
J'aimerais pas être à sa place, en tout cas.
Non, d'ailleurs, il le dit. Hein. Il le dit très fort et haut. Il a dit, c'est la partie la plus difficile à vivre pour un entraîneur.
Oui.
Tu sais qu'il y a des gars qui n'y seront pas et qui vont pas jouer. J'ai été loyal envers d'ailleurs certains joueurs déjà. Alors c'est au cœur de ce sentiment de fraternité que l'on va faire ça. Alors on leur souhaite à tous bonne chance.
Il y aura des frustrés, ça c'est clair.
Oh oui, il y aura des frustrés. Et il y a un dernier match préparatoire donc contre le Japon le 17 novembre prochain.
Il ne faut pas les sous-estimer ces Asiatiques là.
Non plus, les Coréens, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ils avaient fait quelque chose. Hein.
Il ne faut pas du tout les sous-estimer,
exact.
Même si c'est un match amical.
Exact. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux et voir où sont nos faiblesses pour après comprendre qu'est-ce qui se passe et se réajuster.
Oui.
Alors on finit sur donc un peu de Hollywood, un peu de star. Allez, au football, sachez que Apple Music, qui est le principal commanditaire du Super Bowl, il a annoncé que la star de musique Rihanna animera cette année en février prochain avec des grands tambours. Ils ont annoncé ça, le toujours attendu concert de la mi-temps du Super Bowl 2023. Alors, selon le diffuseur NBC, sachez que la dernière fois, ils ont eu 112,3 millions de spectateurs. Fulgence, c'est incroyable à travers le monde. Alors, à la mi-temps du Super Bowl, Rihanna succédera donc à Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et Eminem. Ils ont fait un sans faute au dernier spectacle, à ce qui paraît. Elle a du travail. Alors, depuis maintenant 2019, ces concerts à grand déploiement de la mi-temps sont produits par le groupe Roc Nation. Qui est derrière tout ça?
Oui.
Jay-Z. Donc, c'est lui qui est derrière l'homme désormais très, très riche. Alors, voilà, c'était un peu de blabla hollywoodien.
Ouais.
On va toujours avec l'ambiance américaine. Hein? Ça, c'est les Américains, ça.
Merci beaucoup, Myriam.
Alors, je vous dis bonne fin de semaine.
Merci à toi aussi.
Bonne journée de réconciliation demain avec les Autochtones, c'est important.
Merci, merci. Et belle fin de semaine à toi aussi, Myriam.
Au revoir, à la prochaine.
Allez, au revoir, bye bye. Oui, voilà, mon invité pour la deuxième, deuxième quart d'heure de l'émission, pas la deuxième partie de l'émission, le deuxième quart d'heure de l'émission, le premier quart d'heure déjà terminé. Valérie Lessa, déjà au bout du fil, elle va nous parler de danse-danse. Il s'agit bien de quoi, pourquoi on l'a invité? C'est pour nous parler de ce spectacle qui aura lieu bientôt. C'est le sacre de, de Pina Bausch, qui sera interprété par l'école des sables de Germaine Acogny. Voilà, c'est elle s'y connaît très bien dans ce milieu, Valérie, qui est collaboratrice de danse-danse et puis archiviste, recherchiste, interprète, enseignante. C'est la raison pour laquelle on l'a invitée pour qu'on nous parle un peu de ça. Bon, on m'a dit qu'on ne peut pas avoir Germaine Acogny, qui n'est pas jeune non plus, hein, il faut le dire. D'ailleurs, elle a confié l'école à son fils maintenant. Bonjour Valérie Lessa.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir parler de cet événement. Moi, la pandémie a fait qu'on n'a pas eu la chance de les avoir ici l'année passée, ou bien, je me rappelle bien. Virtuellement, on les a vus, mais cette fois-ci, c'est physiquement que ces danseurs seront chez nous ici à Montréal. Alors.
Oui, on l'attendait avec impatience. Oui. Comme vous l'avez dit plus tôt, on était à la rencontre une première fois de cette œuvre en web diffusion il y a 2 ans maintenant.
Hein. Oui, 2 ans, oui.
Oui. 2020. Donc, j'avais eu l'occasion d'interviewer Germaine Acogny sur le processus de création, de transmission.
Chanceuse.
Oui.
La chanceuse Valérie.
De Pina Bausch à l'école des sables.
Oui.
Et cette aventure qui s'était terminée vraiment abruptement à cause de l'arrivée de la pandémie de COVID-19.
Le maudit virus.
Oui.
Alors, parlez-nous un peu de cette dame. Vous avez la chance de la rencontrer.
Oui, je l'ai rencontrée virtuellement aussi, pas en personne, évidemment. Mmh. Donc, j'avais eu la chance de l'interviewer sur ce beau projet de transmission du sac de printemps de Pina Bausch.
Oui.
Et c'est ça, ça a vraiment été une très, 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 très belle rencontre. C'est une personne absolument charmante, très passionnée aussi de partager... l'histoire de son école des sables, qui a démarré en 1998 avec son époux.
Oui.
Et l'idée était de créer vraiment un lieu d'échange, de formation professionnelle pour les danseurs africains.
Oui.
Donc au Sénégal, en Afrique, mais aussi d'ouvrir cette école à des danseurs de l'étranger également pour favoriser la rencontre entre les peuples, comme elle le dit si bien elle-même.
Oui.
Et c'est une école qui donne de la formation, qui fait de la création chorégraphique également, qui inclut les danses traditionnelles africaines, mais également les danses contemporaines. Donc beaucoup de chorégraphes contemporains invités de l'Afrique, mais aussi d'ailleurs en Europe.
Ouais. Mais quand j'ai vu quelques vidéos d'elle, je me suis demandé, est-ce qu'elle danse encore?
Ah, ça, c'est une bonne question. La dernière fois que je lui ai parlé, justement, à l'occasion de cette entrevue, elle dansait encore, elle enseignait encore.
Oui.
Elle me dit qu'on en avait encore pour plusieurs années. Donc...
Ah bon? Même si elle a confié la direction de l'école à son fils.
Elle a confié la direction de l'école à son fils. Alors, peut-être qu'il s'est passé des choses dans les derniers mois. Peut-être qu'elle a cessé de danser.
Oui.
C'est une très bonne question.
Puis après, elle est au-delà de 70.
Elle m'avait dit qu'elle en avait encore pour plusieurs années, parce que je lui avais dit, moi, j'aimerais beaucoup ça, aller à l'école des sables. J'ai moi-même déjà fait de la danse africaine et je me disais, un jour, j'aimerais beaucoup aller à l'école des sables avant que Germaine se retire, justement. Mais je ne sais pas si j'aurai la chance de le faire.
Ouais, je vous le souhaite, Valérie, je vous le souhaite. Sincèrement, quand j'ai vu quelques vidéos d'elle là sur le web, je me suis dit, waouh! Quelle personne, quelle danseuse, quel chorégraphe. Et bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle exactement, le sacre du printemps de Pina Bausch. La Pina Bausch, c'est une Allemande qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Pina Bausch est originaire de son école est basée quelque part là-bas, à Wuppertal. C'est une ville très mythique avec le train suspendu là.
Oui,
c'est pas exactement. Toutes les villes en Allemagne qui ont le train suspendu. ça. Ouais. Alors moi je me suis dit c'est une ville que j'ai pu découvrir à l'époque dans une autre vie. J'ai dit ouais, c'est la grande. Cette pièce je l'avais vue aussi en version allemande avec
la chance de voir cette pièce.
Oh oui, 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 avec la fondation. Ça, c'était dans une autre vie en Allemagne. Même si c'était très loin quand même de Freiburg, de Wuppertal, Freiburg où j'habitais, mais quand même, ils ont fait des tournées à travers l'Allemagne. Et cette école, le fait que la fondation a pu rencontrer l'école des Sables et puis faire ce truc, cette collaboration avec les 36 danseuses et danseurs issus de 14 pays africains. C'est oui, ça, c'est vraiment, comment elle a pu
incroyable. En fait, c'est vraiment né d'une rencontre entre Germaine Acconi, qui dansait elle-même une version du Sacre du printemps qui s'appelait Mon Élie Noir.
Oui.
Et c'est vraiment la rencontre entre le fils de Pina Bausch, qui avait déjà ce projet de transmettre le sacre de sa mère à des danseurs africains. Et comme le disait Germaine Acconi en entrevue, c'est vraiment intéressant parce que le Sacre du printemps, c'est une musique qui se prête tellement bien à des danseurs africains le mariage était vraiment exceptionnel. Mmh. Et puis le projet a été réalisé. Puis le film qu'on a vu, vous l'avez vu vous aussi sur cette plage au coucher du soleil.
Oui.
C'était également une occasion de voir ce sacre dansé par ces danseurs dans un contexte absolument merveilleux. Mmh. Maintenant, on va enfin avoir la chance de le voir ici à Montréal en live.
Ça va être
on
beau.
On l'attend vraiment avec impatience.
Ça va être
beau. Et le sacre du printemps, que ce soit par celui de Pina Bausch ou autre, c'est quand même une pièce mythique, c'est une œuvre mythique. On est toujours très emballé de voir une proposition du sacre du printemps. Et de voir celui de Pina Bausch à Montréal, eh bien, je pense qu'on est très, très, très chanceux.
Oui. Oui, et chaque groupe qui l'interprète laisse sa propre étiquette.
Exactement.
Oui,
sa signature.
Sa signature,
je pense que les chorégraphes s'approprient cette œuvre en lui mettant leur signature, leur vision du monde également, les caractéristiques de l'endroit d'où ils viennent aussi.
Oui. Pina Bausch qui nous a quittés en 2009.
2009, wow, exactement.
Née en 1940 à Solingen. Voilà, c'est effectivement, c'est dans le nord, la région Rhénan-Nord, là, non loin de Düsseldorf, Cologne, tout cela, Köln, comme on dit en allemand, mais Cologne en français. C'est dans cette région-là, Wuppertal se trouve. Ouais, quand on arrive à Wuppertal, c'est, temps théâtre à Wuppertal, et puis le train suspendu, là, ça, c'est des attractions, c'est des choses qu'on peut pas rater, quoi. Il faut aller. Ça fait partie.
Je n'y suis jamais allée.
Ouais, ouais. Il faut, quand on arrive à Wuppertal, c'est pas une grande ville, hein, c'est un bled. C'est pas une grande ville comme Munich ou bien Hambourg et autres, là. Voilà. Donc, alors, est-ce que vraiment on a la chance de. Je pense que les billets sont déjà en vente, hein, les gens achètent déjà les billets. C'est combien de prestations, au fait? C'est du 5 ou combien?
Il y en a 4, il me semble, si je ne me trompe pas.
Oui.
3.
Oui.
Ah, moi, ça fait déjà longtemps que j'ai acheté mon billet.
Ah, voilà!
Ça fait déjà longtemps que je l'ai, dès que c'est sorti.
Ça fait longtemps que vous avez votre billet.
J'ai réservé mes billets, en fait.
Le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9, si je ne me trompe pas. Il doit y avoir, voilà, avoir 4 prestations, si je ne me trompe pas, ou bien 5. Là, voilà.
En général, c'est 4.
Oh, ouais, oh, là, là. On va te gâter, là. Alors, qu'est-ce que signifie la danse pour vous? Vous, particulièrement, Valérie?
La danse, pour moi, je suis une artiste en danse. J'ai fait mes études comme interprète en danse contemporaine. Et puis très, très tôt, après ma formation, j'ai commencé à enseigner l'histoire de la danse à l'École de danse contemporaine de Montréal. Donc, je suis vraiment passionnée par l'art de la danse et de toutes les manières, tant pour l'enseigner, pour son histoire me passionne, la préservation de son patrimoine, aller voir de la danse.
Oui.
Mais la pratiquer également. Je pratique moins maintenant, mais disons que ça fait vraiment partie de ma vie. C'est une très, très grande passion pour moi depuis assez longtemps, je dirais. J'ai commencé quand j'étais au secondaire.
Oui.
Et plus tard, j'ai commencé à faire de la danse africaine avec un professeur de Guinée, une danse typique de la Guinée, pour me diriger ensuite vers des études professionnelles en danse contemporaine. Donc oui, la danse fait partie de ma vie depuis longtemps.
Wow.
Et,
wow.
Voilà.
Alors, vous n'avez pas envie de... Oh, vous donnez des conférences, mais vous n'avez pas envie de créer votre école de danse ici à vous-même?
Ce n'est pas dans les projets, là, maintenant.
On ne sait jamais. Je vous balance ça comme ça.
Ouais, non, c'est pas dans les projets. Je suis déjà très occupée avec ma compagnie Filigrane Archives qui s'occupe de la gestion des archives de plusieurs compagnies de danse à Montréal. Donc, oui. Je suis très, très intéressée par le patrimoine, par l'histoire de la danse.
Comment marche la compagnie? Comment ça...
Ça va très bien. C'est une compagnie, donc on offre nos services de gestion, pas seulement à la danse. Je me suis tournée vers d'autres pratiques en art vivant, dont le théâtre, entre autres. Donc, il y a un très grand besoin de préserver ces archives, mais toute cette histoire aussi reliée aux arts vivants au Québec. Puis, bon, la danse, c'est sûr que c'est un peu mon terrain de jeu préféré.
C'est votre dada.
C'est mon art de prédilection.
C'est ça. Waouh. Alors moi, je vais tout de suite, avant de vous laisser partir, il nous reste encore 1 minute, ou bien 2 minutes, si je ne me trompe pas, 2 minutes, on a encore 2 minutes. Alors pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, qu'est-ce que vous allez leur dire? J'espère qu'il y a encore des places.
Je leur dis de courir, de courir, vous procurer votre billet.
Oui.
C'est vraiment une œuvre exceptionnelle. C'est quelque chose qu'il faut voir dans sa vie. Je pense que c'est un must pour excuser l'anglicisme. C'est vraiment une magnifique pièce, une musique enveloppante, riche, très, 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 très forte aussi. C'est une expérience à vivre, je crois.
Oui.
Le Sacre du printemps de Pinabage, c'est dansé par ces magnifiques danseurs également. Je pense que ça en vaut vraiment la peine.
Wow. Merci beaucoup, Valérie Lessard. Il va falloir que vous reveniez nous parler un peu de votre parcours personnel. Parce que là, quand je regarde votre parcours, là, votre bio, là, j'ai dit, ouh, elle n'est pas juste archiviste et recherchiste. Elle en fait beaucoup.
Je fais beaucoup de choses, mais ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci, le merci est à vous, Valérie. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Restez à l'écoute. Alors, vous avez entendu Valérie Lessa, qui est archiviste et recherchiste, collaboratrice danse. Voilà, elle est aussi danseuse, interprète, enseignante, elle fait tout. Voilà, collabore avec beaucoup de danseurs. Elle a eu la chance même d'interviewer la grande Germaine Acogny, qui est la patronne de l'École des Sables, qui interprète le sac de Pinabosch. Voilà, maintenant, elle a pris de l'âge. Elle est au-delà de 70 ans, je ne sais pas combien, 73, 76. Elle a confié l'école à son fils à Dakar. Et on aura la chance de voir ces 36 danseuses et danseurs ici à partir du 5 octobre. À la maison, au théâtre Maisonneuve, à la place des Arts. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Christine Tassan, porte-parole du festival Django de Montréal, le premier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le jazz manouche, restez à l'écoute. À tout de suite.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Chambre d'hôtel à Saint-Germain, les grands boulevards et le métro, chacun sa guitare à la main, la joie de vivre en Parigo, une rencontre d'après-guerre, Paris vivant qui veut swinguer, Django Reinhardt, Félix Leclerc, une affiche dont on peut rêver. Entre Félix et Django, ce fut l'amitié tout de go, le grand six pieds, l'homme aux trois doigts, hôtel Cristal rue Saint-Benoît. Entre Félix et Django, ce fut l'amitié tout de go, le grand six pieds, l'homme aux trois doigts, zigane et poète à la fois.
Django Reinhardt, oui, c'est le festival Django de Montréal, le premier festival de Django. La porte-parole Christine Tassan est avec nous pour parler de ce premier festival Django de Montréal. Il était temps, hein, elle va nous le dire, pourquoi elles ont mis elle, qui est l'une des pionnières de du jazz manouche au Québec, pourquoi elles ont mis beaucoup de temps comme ça avant de festivalier. Bonjour Christine Tassan.
Bonjour.
Merci d'avoir le temps de venir nous parler de ce premier festival dont vous êtes la porte-parole. Comment est-ce que vous avez réagi quand vos collègues artistes vous ont contacté pour être la porte-parole de ce premier événement?
J'étais très contente, très touchée, je vais dire touchée. honorée de faire partie, enfin d'être la porte-parole qui m'est choisie comme porte-parole pour ce premier festival Django de Montréal.
Oui.
Ça m'a vraiment fait très plaisir, surtout que c'est quand même, c'est des jeunes qui organisent ça, des jeunes musiciens, puis moi je suis un petit peu plus vieille qu'eux, puis je trouve ça cool là, qu'ils m'aient choisi comme porte-parole.
Ouais, voilà. Bon, un peu plus âgé, vieille, c'est trop dire. J'ai vu vos photos, vous n'êtes pas si vieille. Ouais. J'aime pas trop, ouais, un peu plus âgé, c'est ce quoi. Voilà, mais vieille, non, j'ai vu vos photos. Alors, comment se porte le jazz manouche au Québec?
Ben, il se porte bien, il se porte de mieux en mieux. Il y a vraiment une communauté. En fait, moi, j'ai commencé ici, il y a à peu près 20 ans, un peu plus que 20 ans maintenant, à développer ce style-là avec d'autres des amis de l'époque.
Oui.
Et en 20 ans, on peut voir qu'on est passé de une poignée de musiciens qui jouaient le style, on était 4-5 à peu près, à une belle communauté avec pas mal de groupes, avec toutes sortes d'influences, bien sûr de Django, mais pas juste Django.
Oui.
Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que ça s'est développé comme ça. Et aussi, le public s'est développé petit à petit, a appris à connaître Django Reinhardt et le jazz manouche. Voilà.
Oui, oui. Et les filles, là, les imposteurs, comment est-ce que vous avez pu les réunir autour de vous pour faire ce voyage avec vous? Ou bien pour rentrer dans votre folie.
En fait, mon groupe, il date justement d'une vingtaine d'années. Il a été créé en 2003. Je l'ai fondé en 2003. Donc, c'était avec Lisanne Ross,
oui,
à la guitare rythmique.
Mmh.
Et puis, il y a eu un peu des changements de musicienne au fil du temps.
Mmh.
Mais disons que le groupe a été très stable avec donc Lisanne à la guitare, Blanche Baillargeon à la contrebasse et puis Martine Gaumont au violon et moi-même à la guitare, et on chante aussi les quatre. Puis bon, récemment, avec la pandémie et tout, certaines sont parties vers d'autres horizons un peu. Mmh. Donc là, maintenant, dans mon groupe, ça a changé. Il y a toujours Martine au violon, moi à la guitare aussi. Mmh. Et par contre, c'est Patricia Deslauriers qui est là maintenant à la contrebasse. Mmh. Et on a un gars, Jeff Mosley, qui d'ailleurs fait partie de l'organisation du festival Django de Montréal.
Jeff Mosley, oui, oui. Alors, voilà. je me suis dit, bon, peut-être que après ces années de groupe de filles entre elles, peut-être que Christine va se décider un jour pour dire, bon, là, je veux être avec les imposteurs, je veux être à des imposteurs uniquement, pas de eux à la fin, quoi.
Ben oui, mais quand on regarde la programmation du festival, qui est vraiment une très belle programmation, il n'y a pas beaucoup de filles quand même, hein. C'est encore quelque chose qu'il faut qu'on développe là, le fait d'intéresser les filles à jouer cette musique là.
Ouais, vraiment, mais non, je parlais particulièrement de votre groupe, quoi, les imposteurs. Ouais. Vous, voilà, mm-hmm. Ça c'est votre, c'est toi, voilà, des trois acolytes qui ont embarqué dans votre voyage, dans votre folie.
Oui.
Je me suis dit.
Et qui nous a mené loin à la folie quand même. Hein.
Ah
c'est
oui.
Juste qu'en Chine, on a son tour là un peu partout dans le monde là.
Oui,
donc
oui.
C'est quand même, hein, on a été assez loin avec ce groupe.
Est-ce que Christine, si c'était à refaire.
Oui.
Si c'était à refaire.
Ah ben, je referais la même chose.
Bravo. J'adore ce que vous faites, hein, sincèrement. J'ai écouté quelques
Merci
pièces
beaucoup.
Du groupe. Je vous connaissais même avant d'avoir ce communiqué pour parler de ce festival dont vous êtes la porte-parole. Je me suis dit, waouh. Elle a osé, avec ses amis ensemble, de promouvoir cette musique, le jazz manouche. Et puis, au moins, qu'est-ce qui vous a fasciné, vous, là, dans le jazz manouche, sur le style de Django?
Moi, je dirais c'est Django lui-même. C'est vraiment, bon, c'est tout un personnage. Et puis, cette musique-là me plaît parce que c'est une musique d'abord très dynamique. C'est une musique de danse. Alors,
c'est vivant.
D'ailleurs, le
swing, oui.
C'est très vivant. Mmh. Bon, il peut y avoir aussi un côté très nostalgique à la gitane, je dirais.
Oui.
Et puis, bon, pour les guitaristes, c'est sûr que comme je suis guitariste, pour moi, c'est comme un des summums de la guitare acoustique, quoi, de jouer à la Django et puis de s'intéresser à ce style-là qui est un style très virtuose quand même. Donc, c'est sûr qu'en tant que guitariste, c'est tout un défi et c'est très agréable de jouer cette musique-là.
Oui, merci. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que ce premier festival nous réserve?
Alors,
qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir?
Alors, d'abord, je voulais dire que il a été organisé par des jeunes musiciens.
Oui.
Et je trouve que c'est vraiment courageux de leur part de démarrer un nouveau festival, surtout dans le contexte actuel qui est vraiment pas facile, ni pour les musiciens, ni pour les festivals en général.
Oui.
Donc je trouve ça vraiment super. Et cette première édition-là va proposer deux soirées de spectacles qui vont se passer au Patrovif.
Oui.
Donc ça va avoir lieu le 7 octobre et le 8 octobre, donc la semaine prochaine, en fait, le week-end prochain.
Le week-end prochain, oui.
C'est
oui.
ça. Et puis, on va avoir 5 groupes qui vont jouer.
Oui.
Donc, la première soirée, il va y avoir justement Jeff qui joue avec moi, là, mais il va jouer cette soirée-là avec son groupe qui s'appelle Django Messenger.
Oui.
Après ça, il va y avoir les Royal Pickle, qui est un groupe de swing aussi, qui est vraiment très éclectique et super.
C'est des Montréalais aussi?
Oui, oui, tout le monde est pas mal de Montréal
okay.
pour cette première édition.
Non, je demande parce que je crois qu'il y a des gens qui viennent de Sherbrooke ou bien de même de oui. France ou bien je ne sais où, on ne sait jamais.
Mais pour cette première édition, vu que c'est quand même la toute première et puis que c'est tout autofinancé par
ouais.
les organisateurs,
ouais.
C'est sûr que ils ont commencé par mettre en vedette les gens qui jouent
les artistes locaux.
À Montréal.
Oui, les artistes locaux.
Mais c'est sûr qu'ils ont dans l'ambition de ben après d'élargir le cercle et puis pourquoi pas de faire venir des gens de France ou d'ailleurs.
C'est ça.
Donc la première soirée, ça va être ça, Jeff Mosley, les Django Messenger, les Royal Pickle. Et la deuxième soirée, il va y avoir 3 groupes. Il va y avoir le Alcohol Quintet,
oui.
un jeu de mots, Alcohol Quintet.
Oui.
Donc des jeunes qui sont pas mal sur le party
oui.
et qui sont excellents aussi, je les connais tous bien sûr. Ah. Après il va y avoir...
Vous les connaissez? Oui, mais c'est
ben
votre
oui,
milieu, c'est votre milieu. Tous, Francis ouais. Verville à la guitare, Guillaume Saint-Pierre à la guitare, ainsi de suite. Olivier Georget, Brenda, Camille Brousseau. Zoé Dumais, mais c'est comment?
Ah, il va y avoir du monde. Hein.
Il y a du beau
et
monde.
Puis, après ça, il va y avoir Martin Joanny, le quintet de Martin Joanny. Donc Martin Joanny, c'est un Français
oui.
qui habite à Montréal depuis un an, je pense, quelque chose comme ça.
Oui.
Et qui, lui, il a un site internet d'apprentissage du jazz manouche, mais
oui.
pas juste du jazz manouche d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu vraiment mondialement.
Ah, donc ça dit, il avait déjà la piqûre là-bas du jazz manouche avant d'arriver ici.
Ah oui, oui, oui.
Ah, bah, d'accord.
Sûr,
ouais.
Ouais.
Ouais. OK.
Donc Martin, il va être là. Donc il est installé depuis peu à Montréal. Il va proposer un groupe. Là, le 8 octobre.
Oui.
Et en plus, il va donner une classe de maître.
Okay.
Donc, il va y avoir une classe de maître, je pense que ça a lieu le 7 octobre en après-midi.
Oui.
Voilà, donc il va jouer le 8 octobre. Et après, en finale, ça va être mon groupe. Donc à 10h au Patrovis, le 8 octobre.
À 22h. Oui.
Et les imposteurs. Voilà.
Ouais. Ouais, 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 Christian Tassin et les imposteurs, ouais, il faut mettre l'accent là-dessus.
Ouais, oui, on le garde le.
Même s'il y a un homme qui vient s'ajouter là, non,
ouais,
vous gardez le E à la fin là.
Clairement, c'est des femmes, alors on a gardé le E.
C'est ça.
Après, il va y avoir aussi une autre soirée. En fait, il va y avoir d'autres activités autour de ces deux soirées principales.
Oui.
Il va y avoir un jam, dont je vais faire partie d'ailleurs, le jeudi. Ça va être le 13.
Oui.
Le 13 octobre, donc c'est un jeudi. Oui, c'est ça. Il va y avoir un jam qui va se passer au Vert-Bouteille.
Au Vert-Bouteille, ça c'est sûr. C'est toujours sur Mont-Royal.
Sur Mont-Royal.
Hein. Oui, oui. Mais à l'est aussi là-bas.
Voilà. Donc il va y avoir un jam. Alors là, tout le monde est invité dans la grande tradition du jazz manouche où. C'est une tradition où on finit toujours par jouer tout le monde ensemble.
Oui.
Donc ça va être le 13 octobre. Il va y avoir donc Martin qui va donner sa masterclass le 7 octobre en 5 à 7.
Oui.
Et puis le 16 octobre, il va y avoir un show. Alors là, j'ai pas de précision encore. Dans un atelier de lutherie. Alors, il va falloir se tenir au courant parce que pour l'instant, j'ai pas encore les précisions.
Bon, pour ceux qui savent pas les ateliers de lutherie, c'est les ateliers où on fabrique les guitares. Hein.
Les guitares, oui.
Oui, oui.
Oui, c'est ça. Et ici, il y a un très bon luthier qui s'appelle Théo Cazourian qui fait d'excellentes guitares manouches et je pense que ça devrait être dans son atelier.
Waouh! Génial, voilà. Oui.
Et donc, il y a plein d'activités, même pour cette première édition, je trouve qu'ils ont. Ils ont vraiment réussi à aller chercher l'esprit du jazz manouche, c'est-à-dire les concerts, des classes de maîtres, des jams, des rencontres avec des luthiers. C'est vraiment intéressant et ça va se développer, bien sûr, l'année prochaine, en espérant que ça continue.
Ah oui, et puis vers la mi-octobre, là-bas, il y a un événement qui se passe aussi. Il y a un autre spectacle là, au Jazz 11, le 22.
Le 22 octobre. Ah oui, alors le 22 octobre, effectivement, il y a Andy Mack,
oui,
qui est un guitariste et chanteur qui habite ici à Montréal,
mm-hmm,
qui va faire un lancement d'album, donc de son nouvel album.
Oui.
Donc ça va se passer au Dièse 11.
Mm-hmm.
Voilà.
C'est sur Saint-Denis, voilà. C'est sur Saint-Denis.
C'est sur Saint-Denis.
Non loin,
ouais,
du coin, non loin. Voilà. Au Dièse 11, là, sur Saint-Denis, les gens vont se déplacer, là. Alors, j'espère que ça va, ce festival va, c'est pas seulement, je pense bien que ça va continuer comme ça, et puis que vous allez arriver, vous êtes porte-parole, et puis, de toute façon, ils n'ont pas besoin de vous prier pour que vous vous impliquiez encore plus. Si cette nouvelle génération a des conseils à prendre, qui de mieux que Christine, ça peut donner des conseils dans ce domaine-là? C'est vous, vous êtes la mieux placée, vous êtes l'une des pionnières au Québec. Mais comment on se sent là, hein, quand on est porte-parole et en tant que pionnière, l'une des pionnières, on se dit « Waouh, ces jeunes-là, me suivent aussi depuis fort longtemps ».
Oui, mais moi, j'admire vraiment leur initiative parce que j'avais eu l'idée aussi il y a quelques années. Je m'étais dit, bon, pourquoi on n'organiserait pas un festival? Mais entre le dire et puis le faire,
puis
il y a toute
une
marge.
Pied, oui, oui.
Et eux, ils ont eu l'énergie cette année de dire, OK, on plonge, on verra comment on s'organise. Et puis voilà, et c'est très bien organisé d'ailleurs.
Ouais, parce que c'est du boulot, hein, organiser un festival.
Ah oui, c'est un boulot énorme. Puis c'est quand même des risques financiers aussi.
C'est ça.
Voilà, donc... Ils ont fait un site web où on peut retrouver, où on peut acheter les billets, parce que c'est important, bien sûr, de rameuter le plus de monde possible. Et on compte sur la communauté ici, enfin, les gens qui aiment le jazz manouche ou ceux qui veulent le découvrir.
Oui.
Donc, le site internet, c'est clubdjangoquebec.org.
OK.
Alors, c'est là qu'on peut trouver les billets.
Mm.
Club Django Québec, et d'ailleurs eux-mêmes s'appellent le Club Django Québec.
Club Django, oui, c'est bien ça, Club Django Québec. Ouais, voilà.
Voilà.
Les gens peuvent aller acheter les billets là-bas. Et puis, alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Django Reyna, allez-y, hein, il y a aussi sa musique, même s'il nous a quittés, même s'il est mort, Django Reyna, il y a sa musique sur toutes les plateformes numériques qu'on peut trouver, hein. Alors.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà.
Oui, bien sûr, on peut. Si on veut découvrir le jazz manouche, c'est sûr que le mieux, c'est d'aller écouter Django Reinhardt.
Oui.
Puis après, on peut aller écouter Christine Tasson et les Imposteurs.
Voilà. Alors, Christine, avant de vous laisser partir,
oui,
quel est l'avenir des Imposteurs, eux?
Alors, l'avenir, c'est qu'on est en train de travailler sur un nouvel album.
Oui.
On a commencé là, cet automne.
Oui.
Donc, je suis en plein dans la création du prochain album des Imposteurs,
mmh,
qu'on veut enregistrer au printemps et sortir dans à peu près un an.
Oui.
Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous motive beaucoup.
Mmh.
Et puis, au niveau des spectacles, eh bien, le 16 octobre, je m'en vais en Saskatchewan pour 3 semaines de tournée avec mon groupe.
Mmh.
Alors, on va avoir 18 dates en Saskatchewan, c'est quand même assez le fun.
Mais c'est pas un problème, mais ce qui est bien pour vous, c'est que vous êtes une musicienne professionnelle.
Oui.
Vous n'avez pas besoin d'un boulot à côté, d'un emploi à côté là pour subvenir à vos besoins.
Non, en tout cas.
Au début, peut-être.
Pas facile tous les jours, mais non, effectivement, je fais juste de la musique,
voilà,
en diversifiant quand même les activités. C'est-à-dire, je fais beaucoup de concerts, c'est ce que je préfère faire dans la vie.
Oui.
Je donne des cours,
la scène.
Aussi, je fais du studio d'enregistrement chez moi aussi, donc j'ai quand même beaucoup d'activités différentes.
Oui.
Et effectivement, du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher un autre travail. De toute façon, j'aurai pas le temps.
Ouais, ça, c'est ce que je me suis dit.
Voilà.
Parce que...
Et puis sinon, moi, je joue aussi régulièrement ici à Montréal. D'ailleurs, ce soir, je vais être dans un petit club qui s'appelle La Brassée sur la rue Beaubien, juste en face du parc Molson et à côté du cinéma Beaubien.
Ah, je vois, c'est mon quartier.
Je joue là ce soir. Oui, ah ben,
je vois. La Brassée, oui, je vois. C'est pas vieux ce truc. La Brassée, c'est pas vieux. Hein. Oui, oui, c'est un super endroit.
Mmh. Ah oui, c'est vraiment très chouette.
Très intimiste.
C'est intime, puis en même temps, il y a un côté très populaire qui est vraiment chouette. Il y a de plus en plus de spectacles et d'activités à la Brassée. Moi, je les encourage beaucoup.
Mm-hmm.
Je trouve qu'ils sont vraiment très ouverts à toutes sortes d'événements.
Oui.
Donc, c'est un endroit vraiment le fun à découvrir.
J'ai déjà vu des spectacles là-bas, d'ailleurs.
Oui.
À la Brasserie, oui, c'est mon quartier. Ouais, c'est cool. Voilà, je...
Ben, c'est mon quartier aussi.
Oh là là. On se verra un séjour là à la Brasserie ou bien ailleurs. Alors, merci beaucoup à vous, Christine Tassin, porte-parole du premier festival Django. Ouais, bien sûr, il faut le dire. Mm-hmm. Faut pas le cacher. Et puis, bon, ben, j'espère que ça va, tout va bien se passer. C'est deux, mais c'est quand même. Je pense qu'à la deuxième édition, on aura au moins trois journées de jazz manouche, au moins. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez augmenter les nombres de jours, quoi. Mais pour démarrer avec deux journées de jazz manouche, quand même, c'est déjà pas mal.
Ben oui, c'est très bien. Ouais. Le 7 et 8 octobre, au Patrovis.
Oui.
Juste au-dessus du Billy Coon sur Mont-Royal.
C'est
coin Saint-Denis.
C'est 356 Mont-Royal Est.
Oui, ça doit être ça.
Merci beaucoup, Christine Tassin. Merci beaucoup. Et bon festival à vous.
Merci, merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Au revoir. Oui, c'est Christine Tassin qu'on vient d'entendre. Délit de fuite. Voilà. Alors là, je vais annoncer une nouvelle triste, la mort du rappeur américain Coolio à l'âge de 59 ans. Ça s'est passé, il est parti, il nous a quittés. On ne sait même pas encore de quoi il est mort. Voilà, c'est le manager de Coolio qui a annoncé hier mercredi, d'ailleurs, le décès du rappeur américain qui avait 59 ans. Il n'a pas évoqué les causes de la mort. Il y a d'autres sites qui disent que ça, c'est l'AFP qui l'annonce, d'ailleurs, l'agence France Presse. On l'a retrouvé mort chez un ami. Est-ce que c'est overdose? On ne sait pas de quoi il est mort. Est-ce qu'il était malade? Moi, je n'ai même pas appris qu'il était malade. Non, pas du tout. Mais on le saura dans les jours à venir. Ça, c'est clair. Voilà. Coolio, de son vrai nom, artiste Leon Ivey Jr., est mort. Le rappeur américain de 59 ans s'est éteint hier à l'âge de 59 ans. C'est Jarez Posé, son manager, qui a officialisé la triste nouvelle auprès de l'agence France Presse. Sans toutefois préciser les causes, comme je viens de le dire. Le manager, également un proche de longue date du rappeur, avait déclaré à TMZ, voilà, publication spécialisée dans la couverture des célébrités, la voix trouvée inconsciente dans la salle de bain d'un ami. Voilà, au fait. Pourquoi? En se baignant, je ne sais pas, c'est ça. Ouais, c'est triste. Hein. C'est triste, c'est comme ça. Que la tête lui soit légère et que son âme repose en paix. Coolio, qui a commencé sa carrière en Californie à la fin des années 80, et a donc atteint les sommets de la célébrité avec Gangsta Paradise, qu'on va écouter juste après mon blablabla, et puis en 95, qui figurait déjà dans la bande son du film Esprit Rebelle, le tube lui a valu un Grammy Award l'année suivante, ça il faut le dire, ouais, il reprenait le refrain et la musique de Pastime Paradise, une chanson de Stevie Wonder sortie en 76. Voilà, il est né en 63, sous le nom de Artist Leon Ivey Jr., Pennsylvania. Il a passé la plus grande partie de sa vie à Campton, en Californie, où il a fait ses études et occupé divers emplois, notamment dans la sécurité aéroportuaire, avant de rencontrer le succès grâce au rap. Coolio, que j'apprécie beaucoup, un peu foufou sur les bords, bien, mais c'est un artiste, tous les artistes, chacun a sa vie, et que la tête lui soit légère. On va l'écouter, avant que je ne vous dise au revoir, j'ai encore du temps, ouais, je ne sais pas, mais Je ne l'ai jamais vu en spectacle. Ceux qui ont la chance de le voir, tant mieux pour eux, tant pis pour moi. Il ne va pas revenir pour me faire un spectacle spécial, ça c'est clair. Et il y a d'autres qui sont encore de sa génération, qui sont encore en vie, les Snoop Dogg et autres, ils sont encore là. Oui, c'est la même génération à peu près, mais chacun dans son style bien particulier. Et Snoop Dogg qui s'est rangé un peu là. Et puis le single de Coolio, Fantastic Voyage, et extrait de son premier album studio, It's Take It If, c'est ici la troisième place du classement Billboard Hot 100. Mais c'est avec Gangsta Paradise l'année suivante qui s'est fait connaître, hein, ça, il faut le dire à peu près comme ça, de ce genre. Alors, on va écouter le tube dont je viens de parler. Ça fait un classique de son répertoire d'ailleurs. Gangsta Paradise. Oui, en complicité avec Elvie Coolio.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night.
Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Coolio, Gangsta Paradise, avec la complicité de Elvie, que la terre te soit légère et que ton âme repose en paix. Voilà, peu importe où tu te trouveras dans l'au-delà. Voilà, merci à toi, Mathieu Tessier. Belle régie, belle complicité. Belle fin de semaine. Voilà, belle longue fin de semaine. On se retrouve le mardi prochain. Oui.
Tout à fait.
Voilà, merci. Et merci à Myriam Larage qui est venue nous parler de sport. Et merci à Valérie Lussard, collaboratrice chez Danse Danse, qui est elle-même aussi interprète enseignante dans le cadre du printemps du sac du printemps de Pinabourg, interprété par l'École des Sables de Germaine à Cogny. Et notre dernière invitée, Christine Tasson, qui est porte-parole du premier festival Django de Montréal, 7-8 octobre au Patrovis 356 Mont-Royal Est. Alors, merci à vous, chers fidèles auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Belle longue fin de semaine pour ceux qui seront en vacances demain, la journée de réconciliation. Et sur ce, prenez soin de vos minutes. N'oubliez pas de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Et sur ce, je vous dis ciao.